leur chant. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Hors champ aujourd'hui avec Thomas Joly. Thomas Joly, vous êtes metteur en scène, vous êtes aussi acteur. Malgré votre jeune âge, vous avez déjà mis en scène plusieurs spectacles. Il y a eu Mariana, il y a eu La photographie de Jean-Luc Lagarce, il y a eu Arlequin, poli par l'amour de Marivaux. Bref, des choix assez originaux d'ailleurs pour un jeune metteur en scène. Et puis depuis le succès est venu avec Henri VI, un feuilleton très court qui durait plus de 18 heures. Et puis en ce moment même, Richard III, quelle est la première image que vous ayez dans votre enfance où vous ayez compris que quelque chose advenait, c'était peut-être sur un écran de cinéma ou c'était peut-être sur un plateau de théâtre, le moment où vous avez compris que quelque chose pouvait avoir lieu qui n'était pas vrai et qui pourtant existait?
J'ai un souvenir très lointain, je ne sais pas trop quel âge j'avais, peut-être 2 ou 3 ans, d'un spectacle de théâtre d'ombre qui s'appelait Le Petit Poisson Noir, que ma mère m'avait envoyé voir à Rouen dans un théâtre pour enfants. Et en fait, la sensation d'être avec d'autres enfants que je ne connaissais pas, c'était pas avec ma classe, et de voir ces histoires épiques, puisque c'est l'histoire, je crois me souvenir, c'était l'histoire d'un petit poisson qui traversait les océans, il lui arrivait plein d'aventures, etc. Mais tout ça sur un tissu blanc avec des ombres, ce grand voyage là qui m'était proposé, je vais avoir 4 ans. Ça c'est un souvenir qui est resté, qui m'a beaucoup marqué. Et là, une autre chose qui revient, c'est le dessin animé Fantasia de Walt Disney. L'énormité de la musique et des images. Je sais que j'avais été pétrifié sur mon siège dans un cinéma. C'était la première fois que j'allais au cinéma. Et je crois que ces deux choses-là ont été les réveils, d'être frappé par quelque chose qui advenait en face de moi et avec d'autres.
Quand avez-vous compris que vous vouliez passer de l'autre côté?
Assez rapidement, en fait, j'étais un enfant. Alors, faut dire que j'habitais à la campagne, dans un village de 200 âmes, et que mes journées, mes soirées étaient, mes week-ends étaient consacrés à de grandes promenades dans les champs, dans les forêts, avec mon ami d'enfance, et avec cet ami, on s'inventait 1 milliard de choses. Et dans nos chambres aussi, moi, je mettais en scène mes camarades l'après-midi, les samedis après-midi. Aussi grâce à un auteur qui s'appelle Pierre Gripari, qui a écrit un livre qui s'appelle Cette farce pour écolier, qui m'avait été offert quand j'avais peut-être 6 ou 7 ans. Et donc, je mettais en scène ces pièces-là dans ma chambre et je les présentais à mes parents.
Qui disaient quoi?
Qui étaient... ils trouvaient ça formidable, évidemment, parce que c'était mes parents et que j'avais 6 ans. Mais très très vite, en fait, j'ai fait de la danse classique quand j'avais 4 ou 5 ans, parce que je voulais être un petit rat de l'opéra. Je voulais faire de la musique. J'ai retrouvé des enregistrements où je m'enregistrais moi-même dans ma chambre en train de diriger des orchestres. Enfin, il y avait quelque chose, tout petit. Alors pourquoi? Faudrait que je fouille, mais je ne sais pas. En tout cas, quelque chose avec l'art, avec la création, avec une réalité plus grande que la mienne. Peut-être cette sensation aussi d'espace plus vaste, ceux de la campagne que je traversais étant petit. Oui, une volonté de pallier à la réalité par de l'imaginaire, de voir plus grand. Voilà.
Ça veut dire quoi faire du théâtre pour vous? Inventer un monde?
D'abord, je crois que c'est une relation à l'être. C'est-à-dire que c'est un peu paradoxal, mais j'ai la sensation que sur scène, alors que l'endroit est exposé à d'autres, enfin au public, qu'on est surexposé même en tant qu'acteur, c'est pourtant l'endroit où je me sens le plus proche de moi en tant qu'acteur, le plus proche de ce que je serais vraiment. C'est étonnant parce que...
Vous voulez dire que vous faites concordance et corps avec vous-même sur le plateau de théâtre?
Oui, c'est paradoxal, ouais, mais c'est ça. J'ai l'impression d'arriver à une vérité de moi-même, à une forme d'honnêteté. J'ai toujours parlé aux acteurs en disant qu'il fallait avoir le courage de l'honnêteté de soi, mais j'ai l'impression que le plateau permet ça. C'est très étonnant parce qu'on est exposé, on est en pleine lumière, on est devant des gens, et on refait la même chose tous les soirs, et pourtant c'est un endroit où je suis en sécurité, pour être, peut-être enfin, moi-même, en tout cas à la découverte de moi-même, et ce grâce aux auteurs que je traverse.
Mais comment pouvez-vous comprendre cela ? Être sur un plateau de théâtre, c'est la surexposition de soi, c'est le travestissement de soi, c'est porter une parole qui n'est pas la sienne. Or, pourtant, vous dites que vous êtes là, dedans, à l'intérieur de vous.
Oui. Alors, comment expliquer ça ? Il y a quelque chose de, je crois que vraiment, du rapport à l'honnêteté et de la vibration d'être vivant. Le théâtre, l'ADN du théâtre, alors c'est la première chose qu'on nous dit quand on commence les ateliers de théâtre, on nous dit « ici et maintenant », le fameux « ik et nunc ». Et bien en fait, l'ADN du théâtre, il est là et il est... J'essaye tous les soirs d'être ici et maintenant, ce qui est assez rare en fait dans la
mais
vie.
Vous êtes sans doute un autre, non ? Bah, quand vous êtes Richard III, vous n'êtes pas vous-même.
Mais c'est étonnant, mais je
ce
pense que je suis plus
très
proche
maigre
de moi.
Et...
je crois que je suis plus proche de moi. Ça va te faire peur aux gens, ça. Je suis plus proche de moi en interprétant Richard que peut-être là dans la vie. C'est-à-dire que je suis amené avec ce personnage, mais d'autres, avec les langues des poètes, à aller sonder en moi-même les points de connexion qu'il peut y avoir avec moi. Par exemple, quand Richard, quand sa mère lui dit « Quelle heure de joie ai-je connue en ta compagnie ?» C'est quelque chose qui vient, moi, me heurter. Et je réfléchis aux heures de joie que j'ai pu procurer ou que je n'ai pas pu procurer. Enfin, tout est connecté avec moi et j'essaie de faire résonner avec moi, avec ce que je suis. Du coup, je suis en exploration, en fait, de moi-même, empathiquement avec le personnage. Peut-être davantage en empathie avec le personnage qu'en incarnation. C'est pas un mot que j'aime beaucoup. Et grâce aux auteurs, oui, je vais... Oui, à la rencontre de moi-même. Du coup, j'en découvre des choses devant le public chaque soir.
En même temps, à vous voir en tant qu'acteur et à regarder ce que vous faites en tant que metteur en scène, on n'a pas l'impression que pour autant le théâtre, c'est l'exorcisme de soi-même, ni même une salvation, ni même une traduction de vos tourments.
Non. Non. Et d'ailleurs, je n'aime pas non plus ce type de théâtre très égocentré ou très centré sur les petites histoires des acteurs ou des interprètes ou des metteurs en scène même. Je pense que le théâtre, c'est du spectacle vivant. Alors, bien sûr, il y a du spectacle, de la machinerie, du spectaculaire. Et puis, la question du vivant, pour moi, elle est à préserver, à alimenter, il faut prendre soin de ça parce que les écrans, la télévision, le cinéma, internet, etc., tout ça nous connecte et en même temps nous déconnecte du rapport empathique qu'on peut avoir en live, enfin, les uns avec les autres. Et le théâtre, s'il est toujours là après 2500 ans, peut-être qu'il entretient cette chose-là. Donc j'essaye en fait de faire résonner les mots d'un auteur, ces mots qui sont immuables, avec cette matière vivante, mouvante que sont les acteurs, dont moi-même, et je sais que cette rencontre ait lieu devant les spectateurs. Pour qu'il y ait en fait théâtre, il faut que la matière morte et la matière vivante se connectent.
On a besoin forcément du public pour ça.
Je crois que le public agit comme une loupe. Une loupe d'honnêteté, encore une fois, de courage et d'honnêteté, et que c'est grâce à... On peut le trouver en répétition, mais moi, ce qui m'importe surtout, et d'ailleurs, mes répétitions sont souvent la préparation de la représentation pour que cette rencontre ait lieu devant le public et quotidiennement.
Vous êtes beaucoup trop jeune pour avoir connu Jean d'Asté, pour avoir connu toute cette tradition du théâtre de très tôt, et pourtant, quand on voit vos mises en scène, il y a délibérément... Peut-être pas des citations, mais en tout cas la définition d'un certain théâtre où on fait confiance au texte, on fait confiance au corps des acteurs, à l'agilité intellectuelle et à la conviction de leurs paroles. On n'a pas besoin de décor.
Ben oui, en tout cas, Shakespeare, c'est la leçon qu'il nous donne. Effectivement, le corps... Le texte et l'appropriation de cette langue suffit. On peut jouer tout Shakespeare avec une table et une chaise, ça c'est certain. Et ça peut faire des choses très très belles. Après, j'ai quand même le goût du spectaculaire, donc j'en rajoute parce que je... pour ces pièces-là, parce que je travaillerais sur un autre auteur, je ferais certainement autrement, mais le côté épique, le côté champ de bataille, les enjeux immenses que ces personnages traversent dans ces pièces shakespeariennes, je crois, appellent quelque part aussi le spectaculaire. Oui, le théâtre avant tout, c'est un acteur qui s'approprie, qui s'empare d'un texte, et là-dessus, le tréteau, cette forme d'honnêteté, encore une fois, ce courage. Vous savez, je suis allé au Globe voir Henri IV et j'ai été sidéré.
Donc il faut expliquer ce que c'est que le Globe. C'était le théâtre de Shakespeare.
Voilà, qui a été détruit dans un incendie, mais qui a été reconstruit à Londres et où la Royal Shakespeare Company joue Shakespeare. Et je suis allé là-bas et il y a cette chose absolument fabuleuse de pouvoir s'adosser, s'accouder même à la scène. Et il y a une immédiateté dans le rapport entre l'acteur et le spectateur. Nous sommes tous vivants au même endroit, en même temps. C'est ça que nous raconte cet endroit, cette façon de faire du théâtre, le théâtre élisabétain. Il n'y a pas d'illusion. Il y a un aveu. Et cet aveu, c'est l'aveu du théâtre, mais c'est surtout l'aveu du vivant. Nous sommes tous vivants au même endroit, en même temps. En cela, le théâtre constitue pour moi un laboratoire, un petit laboratoire formidable de la chose qui est plus grande que lui, c'est-à-dire de la société, de notre civilisation, du monde. Nous sommes tous vivants au même endroit en même temps, et donc nous devons tâcher, trouver comment être vivants ensemble.
Ça veut dire quoi, mettre en scène? Ça veut dire quand même faire un choix, même si vous êtes artisan, ne serait-ce que le choix de la traduction, le choix de la compagnie que vous avez créée très jeune.
Tout à fait.
Le choix de l'intensité, le choix du rythme aussi, de l'écriture de Shakespeare, le choix du découpage, parce que certains ont dit que vous avez adapté Shakespeare un peu comme Game of Thrones ou comme un feuilleton télévisuel. Je ne le crois pas, mais vous avez donné un certain rythme, une certaine vitesse au texte.
Vous savez, il est dit dans Roméo et Juliette que la pièce dure 2 heures. C'est une indication assez étonnante qu'il existe dans le texte de Shakespeare. Parce que bon, quand on lit Roméo et Juliette, par exemple, ou quand on essaie de le jouer en entier, on est très très loin des 2 heures. Alors, soit les acteurs jouaient très très vite, ce qui, à mon avis, est une réalité, soit ils coupaient, ils adaptaient, ils faisaient des pièces hybride, enfin, avec le matériau qui était restructuré. Évidemment que mettre en scène, c'est faire des choix, bien sûr. Mais il y a aussi beaucoup d'énigmes et de commandes qui sont passées par l'auteur dans le texte. Et moi, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Comment j'y réponds? Alors,
c'est-à-dire le sens caché du texte que vous devez, en tant que metteur en scène, de mettre à jour ou au jour.
Et voilà, il y a du sens caché. Par exemple, cette découverte que nous avons fait en travaillant sur Richard III, de cet enfant. L'enfant de Richard et de Lady Anne qui n'a pas survécu, qui historiquement est avéré et qui est l'une des malédictions proférées par Lady Anne au début de la pièce, et partant du principe que toutes les malédictions de la pièce proférées par les femmes se réalisent, pourquoi celle-ci n'est jamais réalisée? Eh bien voilà, parce que ça, c'est une énigme. Là, Shakespeare nous pose une énigme qu'il faut savoir dépister, et c'est pour ça que je trouve qu'elle donne aussi un sens nouveau à ce personnage. Mais au-delà des énigmes et du sens caché, il y a aussi les problèmes, entre guillemets, comme un problème de mathématiques. Comment est-ce qu'on passe d'un lieu à un autre? Comment est-ce qu'on enchaîne une scène qui est sur le registre de la comédie avec une registre de la tragédie? Enfin, comment est-ce que l'auteur nous envoie des défis? Et que moi, en tant que metteur en scène, avec la distribution, je dois y répondre. La question du point de vue, en fait, est une chose qui m'a toujours un peu dérangé dans les spectacles, parce que je trouve qu'elle les rétrécit. Elle rétrécit les pièces, forcément. L'auteur, Shakespeare dit plus qu'une course à la couronne entre deux familles. Shakespeare dit plus dans Richard III qu'un monstre qui veut s'emparer du pouvoir. Shakespeare raconte dans Richard III une époque, un royaume, une société exsangue qui sort des années de guerre, où la paix est signée, mais finalement ce n'est qu'un simulacre. Et il nous met en garde là-dessus. Il raconte l'histoire de 3 frères qui sont traumatisés parce qu'ils ont vécu dans la guerre des Deux Roses. Il raconte comment chacun a du sang sur les mains pour être là où il est aujourd'hui. Tout le monde est un monstre, il n'y a pas que Richard. Richard a simplement 1) l'éloquence, 2) la distance par rapport à ce qu'il vit, et 3) il ne croit plus en Dieu. Il a une foi brisée, et c'est le seul. Et ça, on le voit dans Henri VI, c'est le seul qui n'a plus peur de la sanction de la justice divine, et qui donc se fraye un chemin comme sur une autoroute du crime, sans craindre aucune punition. Du coup, ça, c'est intéressant, parce que ça nous montre un personnage qui est, en fait, dans une volonté presque suicidaire, c'est-à-dire qu'il n'est rien. Il dit « je n'estime n'être rien tant que je ne serai pas tout », et n'ayant rien, il n'a rien à perdre. Et donc on assiste davantage à un parcours comme ça brisé, à une course échevelée vers le plus haut pour exploser en plein vol. C'est davantage ça que j'avais envie de raconter dans Richard, plutôt que simplement le monstre qui est déjà présent dans le texte, mais que Shakespeare nous montre autre chose, je crois, que ce monstre-là.
Que cherchez-vous, Thomas Joly, en faisant du théâtre ?
D'abord, il y a la première chose que j'essaie de mettre en place, c'est la question de la pensée, de remanier la pensée, de la rebrasser. C'est-à-dire que il me semble, quand je constate, quand j'écoute la radio, quand je vois les débats ou que j'écoute les actualités, dès que la pensée est arrêtée, il y a violence. Alors, dans les choses qui sont dramatiques et blessantes et très traumatisantes, comme par exemple les attentats de l'année dernière, ou alors aussi dans les petites choses comme le racisme, comme l'homophobie, comme toute forme de discrimination, ça c'est une pensée arrêtée à un moment donné. La pensée arrêtée crée la violence, donc à partir de là, je crois que mon travail c'est d'essayer de la remettre en mouvement. Encore une fois, pas d'imposer une pensée, mais de remettre la pensée en mouvement, de la brasser. Et le théâtre, je crois, permet cela ensemble, à 1000, c'est-à-dire 600, 800 spectateurs et une cinquantaine d'acteurs, de techniciens et d'équipes de théâtre. Tous ces vivants réunis permettent de refaire circuler la pensée. Ça, c'est la première chose. La deuxième, refaire circuler la pensée pour plus de discernement. Et puis la deuxième, c'est que je pense que le théâtre répond à deux besoins qui sont premiers. Chez l'être humain. D'abord, quand on est tout petit, enfant, spontanément, je vois mon filleul me demande des histoires le soir. La volonté de se faire raconter des histoires pour que le cerveau puisse certainement enclencher un processus. Ça, c'est spontané chez l'être humain. Et l'autre chose qui est spontanée, c'est que dans la liesse, comme dans l'effroi, les êtres humains ont besoin de se sentir ensemble, de se rassembler. Eh bien, le théâtre répond à ces deux besoins primaires. Le besoin d'histoire, de narration, de récit, de mots, et puis le besoin d'être rassemblé, d'être avec ses semblables. Voilà pourquoi je fais du théâtre.
Pensez-vous qu'on puisse assigner en 2016 une mission au théâtre ?
Oh oui, une grande mission. Moi je crois que le théâtre est l'un des outils les plus pertinents et les plus simples d'accès pour résoudre beaucoup de questions sur le vivre ensemble, beaucoup de questions sur les diversités, beaucoup de questions sur le fait que aujourd'hui on ne peut plus globaliser, mais que nous sommes tous à la fois différents et avec nos perceptions, nos cultures, nos religions, nos choix personnels, et en même temps nous sommes tous vivants, encore une fois, au même endroit, en même temps. Ça a l'air de rien, cette phrase, mais pour moi elle est centrale. Sénèque parlait d'un traité d'indulgence mutuelle. Je pense que c'est la voie de sortie. D'ailleurs, vous voyez, Sénèque en parlait déjà, de la difficulté d'être ensemble, de vivre ensemble. Donc c'est pas un problème nouveau. Et le théâtre, s'il est toujours là après 2500 ans, s'il a passé toutes ces révolutions, et même s'il résiste au cinéma, et que les salles sont pleines, et que les gens sont assis, et même debout, pour certains spectacles, eh bien, c'est que il a sa raison d'être. Et sa raison d'être, c'est celle-ci. Peut-être de... Donc la question de la circulation de la pensée, mais de résoudre en fait, de retrouver, oui, du bien commun, du sens, de retrouver le sens ensemble. Vous savez que moi je crois qu'on est dans une époque un peu comme l'époque baroque, c'est-à-dire on est en train de passer d'une grande période de l'histoire à une autre, et que nous sommes du coup dans un moment qui est extrêmement, alors qui peut être angoissant, on le voit, mais moi qui m'excite beaucoup parce qu'il est très prolifique, il est bouillant, il est vif, il n'est pas simple, il faut le comment dire, se frayer un chemin là-dedans, et comme Shakespeare le faisait, eh bien il repasse toute son histoire, il réécrit toute l'histoire de son pays et il la propose à la population, et il va piocher dans les grands récits antiques, etc. aussi pour retrouver du sens. Parce que je crois qu'en fait, comme le sens est troublé, qu'on ne sait pas trop par où on va, eh bien, du coup, je crois qu'il est bon, non seulement que les poètes contemporains traduisent cette chose-là aujourd'hui, mais aussi que Shakespeare, Sénèque, les Grecs, les Romains, enfin voilà, les grands récits, mais comme on voit aussi les grands récits au cinéma, hein, Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux, ou Harry Potter, ou dans la littérature, ou dans les séries télévisées, ce besoin de récits, de narration, l'homme a besoin d'un héros, de héros, de n'ayant plus de modèle, de mythe contemporain, à la recherche de son mythe contemporain, l'homme a besoin de repartir dans des œuvres comme ça au long cours qui narrent, qui donnent un sens à qui donne, oui, où il y a un sens, puisque notre sens à nous est un peu troublé.
En ce moment même, votre Richard III remplit les salles après votre énorme succès de Henri V et de Henri VI. Richard III obsède les metteurs en scène parce que nous, spectateurs, nous avons pu voir au dernier Festival d'Avignon donc le Richard III de Thomas Estermayer et puis encore plus récemment King of Wars, qui est une succession de concentrations, de portraits de rois dans une mise en scène de Ivo Van Hove qui se clôt avec la figure de Richard III. Il y a eu auparavant, effectivement, Ariel Garcia Valdez qui incarnait Richard III dans la mise en scène de La Vaudan, etc. Je pense que tout ça n'est pas dû à la commémoration de l'année Shakespeare. Tout ça est peut-être dû à un autre type de questionnement. Qui est Richard III pour vous?
Ben, c'est de poser la question parce que c'est plutôt, moi je trouve ça passionnant de se rendre compte à quel point cette pièce est pas que Richard III, mais les pièces historiques, il y a aussi un Richard II qui tourne, il y a un autre Richard III monté par Jean-Lambert Ville d'à Limoges en ce moment. Qu'est-ce qui donc obsède les metteurs en scène, les acteurs, les créateurs avec ces pièces historiques? Alors, bien sûr, on retourne, ce que j'ai dit tout à l'heure, dans Shakespeare pour aller interroger comment fonctionne le pouvoir. Mais peut-être, si c'est Richard III qui tire son épingle du jeu en ce moment, c'est peut-être parce que des élections nous attendent, peut-être aussi parce que le système électoral est moribond, enfin est peut-être exsangue aussi. On l'a vu dans les dernières élections que l'abstention n'est peut-être pas, est peut-être non pas seulement un rejet, mais surtout une non, on ne se retrouve plus ni dans les candidats, ni dans les programmes, ni dans la façon de voter, et que donc à l'aube de nouvelles élections importantes qui sont celles de 2017, montrer cette figure qui est en fait un démontage, une dissection de la manipulation politique, de comment est-ce qu'un homme qui n'a pas de programme, Richard III n'a pas de programme politique, Richard III veut le pouvoir pour le pouvoir. Alors, ça peut être décevant, mais c'est ce qui est écrit. Il n'y a aucune parole politique dans la bouche de Richard III. La seule, c'est lever une armée pour se défendre lui-même contre le comte de Richmond, le futur Henri VII qui veut débarquer en Angleterre. Sinon, ce garçon n'est rien. C'est un épouvantail. Il est, c'est une coquille vide qui veut le pouvoir. Et du coup, je crois que c'est très intéressant d'aller questionner cette figure-là, les rapports au peuple aussi, parce qu'il y a des scènes absolument terrifiantes de manipulation de la masse. Comment est-ce que... En fait...
C'est ce que vous mettez en scène, donc, en utilisant des méthodes de domination du peuple et en faisant référence aux grandes messes rituelles laïques d'aujourd'hui, c'est-à-dire
exactement,
les grands concerts.
Exactement,
quoi.
Et puis les grands shows politiques, les grands débats, la télé politique, etc. Shakespeare nous met une scène au milieu de Richard III qui est absolument sidérante. Le peuple vient lui demander d'être roi et le peuple est, je crois que Shakespeare faisait comme ça, interprété, en tout cas représenté par le public. Et donc le public est à la fois dans une posture absolument inconfortable et piégeuse, puisque à la fois il a vu tout ce qu'a fait Richard III et qu'il ne peut pas, il ne peut pas valider ses actes, et en même temps, à ce moment-là, on lui demande de le valider, de valider Richard III. Et je trouve que cette position-là, elle est absolument formidable. D'ailleurs, elle crée débat dans la salle. Des gens sortent, des gens huent, des gens applaudissent, jouent le jeu. Mais en tout cas, c'est ça que nous pose Shakespeare. Il nous dissèque, en fait, un programme un programme médiatique, quasiment.
Et le principe de consentement.
Et le principe de consentement et
à
comment...
l'humiliation et à la déchéance morale de soi.
Il y a de ça, et puis plus c'est gros, plus ça passe. Il y a aussi cette chose-là chez Richard, et lui-même en est sidéré. Il dit, la phrase peut-être la plus intéressante, je crois, de Richard III, c'est « Qui est assez grossier pour ne pas voir ce palpable artifice, mais qui est assez hardi pour dire qu'il le voit ?» Ça, c'est absolument... Déjà, 16e siècle, il nous pose cette question-là.
C'est la naissance de la conscience de soi?
Ah, mais Richard n'est qu'une pièce, une pièce que sur la conscience de soi. C'est l'un des derniers mots qu'il dit, hein. Conscience n'est qu'un mot à l'usage des lâches, inventé tout d'abord pour tenir les forts en respect. Et en fait, c'est sa conscience qui va le tuer. C'est pas Henri de Richmond qui va tuer Richard sur le champ de bataille. D'ailleurs, historiquement, Henri Richmond n'était pas sur le champ de bataille. Je crois que, en tout cas, ce que nous montre Shakespeare, c'est que c'est sa conscience, c'est ses actes détestables, ce sont les fantômes des gens qu'il a assassinés, enfin fait assassiner parce qu'il n'a pas de sang lui-même sur les mains. Il a fait tout ça, il a fait faire tout ça par d'autres. Mais c'est son le remords, la conscience, l'éveil à ça de lui-même, de ce qu'il est lui-même. lui-même qui va le perdre, c'est certain. Il est inconscient de ce qu'il est. Il est toujours moqué, conspué par les autres. Et donc, il décide de se rejeter de l'humanité. Plutôt que d'être rejeté par l'humanité, il décide de s'en extraire lui-même et donc de devenir un monstre, hein, au sens étymologique, et pas que au sens de ses difformités. Et donc, il part dans une conquête de lui-même qui va lui faire se rencontrer lui-même et sa conscience, et qui va le perdre. Il se déteste lui-même. Il le dit, je me déteste.
Et vous avez raison de le signaler, c'est très probant à l'intérieur de votre travail de metteur en scène, Thomas Joly. Il est très étonné que sa perversité fonctionne. Ce qui l'étonne, c'est les autres, le consentement des autres.
Exactement, exactement. Si vous voulez, Richard III, quand ça démarre, c'est pas tout cuit d'avance pour lui. Il est quand même d'abord dans un constat qu'il n'aura rien, ce que j'ai dit, il n'aura rien, et donc il veut tout, il veut la couronne. Et surtout sa foi. Sa foi s'est brisée à la fin d'Henri VI. Ça, c'est, on le comprend dans la continuité. Donc, n'ayant plus de regard de cette justice divine, il démarre son projet. Mais il n'a pas tout prévu d'avance. Il y a des embûches dans son projet. Et pourtant, il y arrive. Il dit, par exemple, j'ai l'air d'un saint au moment même où je joue le plus le diable. Il dit, je fais le mal et suis le premier à brailler. Il se pose la question de comment est-ce qu'il a pu séduire Lady Anne. Femme fut-elle jamais courtisée de cette façon? Il ne revient pas en fait de l'étonnante facilité avec laquelle il y arrive. Mais qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte pas qu'il est plus... Alors oui, il est peut-être plus malin que les autres. Mais surtout que les autres sont aveugles, exsangues, traumatisés, qui n'ont plus de discernement et qui n'arrivent plus à... Ils n'ont plus la capacité à distinguer ce qui se passe. Et donc... On le laisse faire, mais pas par consentement, par ignorance, par aveuglement.
Tout ce qu'il fait, il l'énonce.
Tout.
Et c'est parce qu'il l'énonce qu'il y arrive. Comment vous comprenez cela?
Parce qu'il est un acteur, il se donne un défi, et comme il fait du public son complice, malgré lui, hein, le public n'a rien demandé, mais pourtant il est le complice d'un monstre, eh bien il dit, voilà, je vais faire cette chose-là. Du coup, il a ce défi à relever, et en plus il a des... entre guillemets, des gens qui le jugent, enfin qui attendent ça, il y arrive, et après, non seulement il dit « je vais faire ça », puis il fait ce qu'il fait, mais après il dit « vous avez vu, j'ai fait ce que j'ai fait ». C'est-à-dire qu'il est tout le temps en auto, il se regarde faire, il se regarde agir dans ce monde exsangue, ce royaume traumatisé. Et il fait ça parce que je pense qu'il est... Il est un acteur, c'est-à-dire qu'il a le théâtre avec lui. Il dit « je peux mouiller mes joues de larmes factices ». Donc on ne sait jamais son rapport aux larmes à Richard, s'il est sincère ou s'il est il est faux. Et en plus, on est toujours bien d'accord qu'on est au théâtre, hein, donc on est dans le faux. Est-ce que c'est l'acteur qui pleure, Thomas Joly? Est-ce que c'est l'acteur Richard qui pleure? Enfin, et il le dit lui-même, je peux mouiller mes joues de larmes factices. Donc son rapport à l'émotion est un rapport tronqué. Et on ne saura jamais à la fin... Il dit, lui qui dit, je ne crains ni la pitié, ni l'amour, ni la crainte. Eh bien, à la fin, l'un de ses derniers mots, il dit, j'ai peur. C'est encore une fois une preuve qu'il va à la rencontre de lui-même. Il pense ne rien connaître de l'amour, de la pitié, de la crainte. Et tout à coup, eh bien, la peur le saisit.
Merci beaucoup, Thomas Joly. Merci pour ce Richard III qui tourne un peu partout en France avec un immense succès. Et j'espère qu'il y aura un après Richard III. Merci à toute l'équipe de Hors-Champ, merci à Élodie Royer, Corinne Amar, Samuel Bernard, Didier Lagarde, Anne Kobilac et Delphine Baudet. Vous écoutez France Culture. Bon après-midi.